Radio.
La chronique des libraires.
Bonjour tout le monde, c'est la libraire des signes. Il y a Claire, Charline et Camille présentes. Et nous allons vous parler de bouquins. Pour changer, c'est le printemps. Je vais vous parler d'un livre qui s'appelle « La sexualité normande comme ma poche » de Jean-Yves Sondret à L'Arbre Vengeur. Est-ce que c'est déjà sorti ? Bonne question. Ça ne saurait tarder. Oui, c'est déjà sorti. Eh bien, c'est juste le bouquin parfait pour le printemps. Ça va vous réveiller les yeux, les oreilles. C'est un texte vraiment, vraiment très vivant. C'est rare qu'on ait des... Enfin, pour moi, en tout cas, qu'on ressente vraiment des sensations physiques à la lecture d'un livre. Et c'est vraiment juste super bien écrit. Ça commence sur un vent à décoller toutes les oreilles. Je vous en lis un passage parce que vraiment ça donne bien le ton et après je vous raconterai de quoi ça parle. Le gros de la clientèle s'était envolé par lambeaux. Les plus téméraires ne s'enhardissaient qu'à raser les murs, chalands frileux, rejetons dégénérés de leurs très lointains ancêtres scandinaves, les Björnulf, les Svanhild, les Kustaf et les Anquetil, les Ragnulf, les Torgar, les Valborg et autres marins émérites, seuls normands dignes de ce nom, d'esprit joyeusement combatif et que les pires tempêtes divertissaient follement. À l'inverse, Corneillaise et Corneillais courbaient le front, les yeux plissés, baissaient le nez, rentraient la tête sous la carapace de leur appréhension, pliaient l'échine en cartilage de dinde qui leur tenait lieu de colonne vertébrale et ne s'essayaient nullement à avoir des tripes, rompus qu'ils étaient à se chier sur les talons au moindre embarras, abjecte conséquence de leur abus quotidien des fromages à pâte molle et de la procrastination. D'ailleurs, ne coulait dans leurs veines que le fameux sang de navet dont on fait le boudin du coin. Bon, ça commence comme ça, je trouve ça juste trop marrant, quoi. Et c'est un livre qui met en scène eh bien, deux frères. Il s'agit de Paul et Olivier et des frères d'Étouffe. Déjà, ça commence bien. C'est les Placides frères d'Étouffe. Et il s'agit de Paul Olivier et de son frère qui s'appelle Pierre quelque chose. Comment il s'appelle, son frère ? Qui vivent en bon célibataire. En Normandie, donc, une vie calme et paisible. Et un jour, en lisant Flaubert, Paul Olivier, en lisant Bouvard et Pécuchet, donc évidemment, Paul Olivier est pris d'une furieuse érection qui lui fait remettre toute sa vie en question. Et donc, sa vie de gars au sang de navet va changer du tout au tout, puisque, à l'instar de Bouvard et Pécuchet, il va décider de consacrer le restant de sa vie à la découverte, l'étude du sexe. Voilà, c'est la sexualité normande comme ma poche, c'est franchement, c'est parfait pour commencer le printemps. J'enchaîne sur deux autres choses, pas du tout printanières pour le coup, mais vraiment de grands bouquins selon moi. Je vais aller assez vite sur le premier parce que je ne l'ai pas terminé, donc ça ne se fait pas normalement de parler d'un livre qu'on n'a pas fini, mais je sais déjà qu'il va m'emballer jusqu'au bout. Ça s'appelle « Une histoire de France », c'est Nathalie Heinisch aux Impressions Nouvelles. C'est une histoire familiale, c'est son histoire familiale très clairement, et c'est une histoire de France qui commence bien loin de France, puisque ses ancêtres sont nés en Europe centrale, à Minsk, en Ukraine, en Biélorussie, voilà. Et c'est vraiment... Il faut le lire comme un récit, mais en même temps, c'est le récit d'une historienne, donc avec cette pincée de sel de tout un certain débat qui peut avoir lieu entre historiens aujourd'hui sur quelle est notre position, quelle est la position que l'historien choisit pour raconter l'histoire avec un grand H. Donc, sans rentrer dans les détails, elle s'inscrit dans ce débat-là, mais c'est vraiment un récit très personnel qu'on peut lire tout à fait comme le roman d'une certaine famille française entre la fin du 19e et aujourd'hui. Et le prologue est très beau, enfin, c'est un livre, et c'est un bel objet, c'est un livre plein de photos, c'est aussi un livre avec des arbres généalogiques. J'ai entendu un jour une romancière, Alice Fernet, dire que elle, s'il y avait un arbre généalogique au début du bouquin, elle voulait pas le lire parce que s'il y avait besoin de repères visuels pour pouvoir comprendre le texte, ça l'intéressait pas. Je trouve que c'est un point de vue, même si je suis pas d'accord. Moi, j'adore regarder les arbres généalogiques, mais là, l'arbre généalogique est vraiment à son rôle entier dans le texte. Donc, c'est un livre plein d'images, plein de ce genre, ce type d'illustration. Et ça commence justement par une photo absente. Elle raconte comment, adolescente, son père lui a confié une photographie en lui recommandant d'en prendre vraiment soin parce qu'il n'y avait qu'un seul exemplaire de cette photo. Et cette photo représentait son arrière-arrière-grand-père qui tenait sur ses genoux son père à elle, Jacob. Son grand-père à elle, Jacob. Donc c'était une photo qui était transmise sur 4 générations. Elle décrit longuement la photo et puis à la fin de la première page elle écrit: et cette photo je l'ai perdue, et il y a un cadre vide sans la photo. Voilà, c'est comme ça que le récit commence. C'est vraiment un beau texte sur la filiation, sur combien il y a de façons différentes d'être français aussi. Voilà, je pense que c'est parfaitement d'actualité vu le nombre de personnes qui seraient susceptibles de se présenter à notre frontière, à nos frontières, et la façon dont on les accueille. Oui, je suis désolée, je fais ma militante de base, mais je sais pas, je parle plus de charité chrétienne qu'autre chose, vraiment, à proprement parler. Je pense que c'est aussi pour ça que ce livre est important, quoi. On enchaîne avec Enterrez-moi debout, l'Odyssée des Tziganes, de Isabelle Fonseca, chez Albin Michel. Bon, comme l'indique le sous-titre, c'est l'Odyssée des Tziganes. L'Odyssée des Tziganes d'Europe centrale plus particulièrement, surtout en Yougoslavie, en Albanie. Isabelle Fonseca, c'est une grande reporter avec une très belle plume. On peut vraiment la classer aisément parmi les écrivains voyageurs, dans le meilleur sens du terme, qui a passé énormément de temps en Europe centrale avec les Gitans et qui a passé du temps dans leur intimité et qui donc porte un regard sur elle qui est vraiment sur eux, pardon, sur elle, je dis, parce qu'elle a vraiment passé beaucoup de temps avec des femmes, et finalement c'est un côté de la société gitane qui est peu connu, peu exploré et très peu représenté. Du coup, elle a vraiment passé beaucoup de temps avec eux et elle raconte. Il faut le lire comme un récit de voyage, comme du temps passé auprès de gens qu'on ne connaît pas et qu'on découvre. C'est passionnant, c'est très émouvant, et Enterrez-moi debout, c'est une injonction à la dignité, c'est un moto de vie, et je pense que personnellement, en tout cas, ça m'inspire. Je pense que Enterrez-moi debout, ça veut dire enterrez-moi comme j'ai vécu, debout, dignement, comme un homme. Voilà, c'est Enterrez-moi debout, l'Odyssée des Tziganes, chez Albin Michel, de Isabelle Fonseca. À vous, mesdames.
Alors, ce sera madame, parce que Claire revient de vacances ce matin et avait oublié. Mais du coup, elle n'a rien préparé et du coup, elle n'a pas envie de parler.
Alors, bonjour à Radio, c'est Claire. Aujourd'hui, on parlera de rien du tout parce que je reviens de vacances. Et que malheureusement, toutes les BD que j'ai lues, de toute façon, elles ne sont pas encore sorties. Donc on se verra la fois prochaine. Merci, à toi Charline.
Non mais j'ai déjà dit que tu avais juste oublié qu'il y avait Radio, hein, c'est bon, on peut l'avouer. Donc du coup, moi je vais vous parler de plein de livres. Voilà. Je ne sais pas par quoi commencer, mais je vais commencer par celui que j'ai sur les genoux, tant qu'à faire. Il est sorti en fin d'année 2017. Ça s'appelle La petite encyclopédie illustrée des animaux les plus étonnants. C'est par Maya Safstrom. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est chez Rue du Monde. Et c'est un petit documentaire, en fait, qui est illustré très simplement par des dessins en noir et blanc, mignons comme tout, très simplistes, super, super rigolo. Et en fait, comme le titre l'indique, c'est une petite encyclopédie illustrée des animaux les plus étonnants. Donc en fait, c'est juste des faits qu'on ne connaît pas forcément, ou en tout cas que les enfants ne connaissent pas forcément. Par exemple, là, je tombe sur la page des mouches. Est-ce que vous saviez que les mouches, c'est du bout de leurs pattes qu'elles perçoivent les goûts ?
Moi, je sais.
Les mouches font caca toutes les 5 minutes. Elles sont sourdes. Et avant de manger, elles vomissent sur leur nourriture, et donc la vôtre parfois. C'est pour ça qu'il faut gicler les mouches et les tuer, parce que c'est dégoûtant.
Ah merci, Charline, pour le croissant, là, c'est mort.
Et les mouches, pour s'envoler, doivent d'abord faire un bond en arrière. Enfin voilà, c'est que des petites choses rigolotes comme ça sur les animaux, les insectes, la nature. J'en ai une qui est mignonne aussi, sur les loutres de mer. Parce que, je ne sais pas si vous le saviez, mais lorsqu'elles dorment en flottant dans l'eau, les loutres de mer se tiennent par la main afin de ne pas être séparées par les courants.
Oh, c'est beau. Moi, j'adore.
Oh, voilà. Et donc, c'est plein de petites choses comme ça, rigolotes, et que j'aime beaucoup, que c'est tout simple. Il n'y a pas de couleur, alors il y a forcément des gens qui vont dire oh, « c'est triste, il n'y a pas de couleur, c'est sombre », mais pas du tout. Voilà, à mettre entre les mains de tout le monde, même les adultes, parce que c'est trop drôle. Du coup, j'enchaîne, hein, Claire, vu que t'as rien préparé. Je passe sur un deuxième documentaire qui est pour le coup sorti hier, donc c'est vraiment tout neuf, tout neuf. Ça s'appelle « Les merveilles de la nature au fil des saisons ». C'est sorti chez Circonflex, c'est par Hélène Aporn-Siri, voilà. Et c'est un petit documentaire sur la nature en général, donc au fil des saisons, toujours comme l'indique le titre. Et en fait, ce qui est juste épatant dans ce bouquin, c'est que toutes les illustrations, je dis bien toutes les illustrations, donc des plantes aux animaux, sont faites à partir de plantes, feuilles et fleurs séchées, que l'illustratrice a positionné pour former des choses et qui est, enfin, qui est là, j'imagine, scannée ou enfin, je sais pas. Et c'est juste trop joli, t'as vu?
Mais j'ai l'impression qu'elle a remis de la couleur dessus, non?
Ah bah,
je pense qu'elle a posé et elle a rajouté de l'aquarelle.
Je sais pas, hein, je suis pas sûre. Mais là, par exemple, devant moi, j'ai un héron qui est composé de, bah, de feuilles.
Non, elle a composé en fait avec les feuilles, mais je pense qu'elle a rajouté de l'aquarelle
ah
dessus.
Ah oui, peut-être, mais enfin, le fait est qu'elle part quand même d'une base juste...
Tout à fait, Charline, je ne voudrais pas te contredire. C'est toi, la professionnelle du rayon jeunesse.
Merci. Enfin, voilà, c'est juste épatant. C'est sympa comme petit documentaire pour faire découvrir la nature au fil des saisons. Voilà, qu'est-ce qui se passe en printemps, qu'est-ce qui se passe en été, tout ça, aux enfants, on va parler de chouettes, on va parler des migrations, de l'hibernation, de plein de choses, et c'est juste trop beau. Moi, je m'extasie un peu dessus parce que c'est...
Non, c'est vrai que c'est magnifique, on a l'impression que c'est une peinture avec du dessin, en fait. Et là, elles sont magnifiques, les feuilles
oui.
Sèches.
Ouais, un peu en dentelle, là. Enfin, c'est, voilà, pour représenter l'automne, c'est juste magnifique. Voilà, donc ça s'appelle « Les merveilles de la nature au fil des saisons ». Je ne rappelle pas l'auteur parce que je vais encore bafouiller. Et c'est chez Circonflex et ça vient de sortir. Je passe ensuite à un album à l'école des loisirs qui vient de sortir hier et qui est juste trop joli. Toujours au niveau des illustrations, mais au niveau de l'histoire aussi, c'est un album un peu écologique en même temps. C'est un tout nouvel auteur illustrateur à l'école des loisirs qui s'appelle Joe Todd Stanton. J'ai réussi à le dire cette fois. Et ça s'appelle Le secret du rocher noir. Et t'as vu, c'est trop
c'est
beau.
En relief.
Hein.
Même c'est en relief, c'est magnifique.
En relief, c'est juste trop joli. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Erin, qui habite à côté d'un port de pêche, dans une petite maison, avec sa maman et son chien Archie. Et sa maman est pêcheuse, et part tous les matins en mer. Tous les pêcheurs du coin ont peur d'une chose, c'est de la légende du rocher noir. Il paraît que c'est un énorme rocher qui surgit, qui se déplace et qui casse tous les bateaux, qui fait naufrager tout le monde et qui fait peur à tout le monde. La maman d'Erin ne l'a jamais vue, mais Erin, qui a soif d'aventure, décide en fait un matin de se cacher dans le bateau de sa maman et donc part en même temps qu'elle. Et bien évidemment, le rocher va faire son apparition ce jour-là. Le bateau va être un peu malmené, mais va repartir sain et sauf. Sauf que dans la secousse, Erin est tombée à l'eau et comme sa maman ne savait pas qu'elle était à bord, personne ne va se rendre compte qu'elle est tombée à l'eau. La petite fille coule dans les eaux sombres et profondes et en fait elle va se sentir soulevée par une main et en fait elle va se rendre compte que ce rocher noir c'est une espèce de bête en fait qui vit dans les fonds avec un petit chapeau qui dépasse et que ce rocher il est entouré de milliards de poissons, de faune océane multicolore, elle va voir des méduses.
Mais en fait, Charline, c'est un rocher vivant.
Oui,
c'est un monstre.
C'est un rocher vivant. C'est une créature, quoi. Et donc, elle va voir tous ces poissons qui vont l'émerveiller, mais elle va voir aussi ce rocher qui est bien mal en point, qui a eu des éraflures à cause des bateaux, qui est emmêlé dans des filets de pêche, et même une énorme ancre plantée dans ce rocher. Donc elle va se rendre compte qu'en fait ce rocher il est gentil et que les gens ils sont juste méchants. Enfin voilà, je résume bien, hein, mais le petit rocher va, le gros rocher même va réussir à la ramener au port, et la petite fille va essayer de convaincre tout le monde que c'est pas un méchant rocher, qu'il faut y faire attention, que voilà. Mais tous les pêcheurs vont dire non, c'est un monstre, c'est comme dans La Belle et la Bête, tuons la bête, tout ça, ils vont partir en chasse.
On y va, Charlie.
Ils y vont.
C'est les adultes,
hein. Mais la petite fille va réussir à montrer que non, c'est juste un havre de paix pour plein de poissons, pour la... Voilà. Et ils vont le laisser tranquille, du coup. Et voilà, c'est juste trop joli et les illustrations sont vraiment magnifiques. Il y a des planches à couper le souffle. Je ferai de chaque page un poster, je pense. Si j'étais à l'école des loisirs, hein, école des loisirs, si tu m'entends. voilà.
N'oubliez pas de l'envoyer à la librairie des signes à Claire et Charlie.
Voilà. Donc ça s'appelle Le secret du rocher noir. C'est Joe Todd Stanton, l'auteur. C'est à l'école des loisirs. Et je vais terminer parce que là, ça devient difficile. Merci Claire, hein, de nous offrir des petites pauses. Parler de d'autres livres, hein, voilà.
Il pleut aujourd'hui. Merci. Je pense que je ne le... Vive la Picardie. On est bien dans notre pays.
Et pour finir, un petit roman qui m'a touchée là dernièrement.
Ah bah tu vois, il pleut aussi sur ton roman.
Il pleut aussi sur mon roman. Oui. Ça s'appelle Jefferson. C'est par Jean-Claude Mourleva chez Gallimard Jeunesse. Jean-Claude Mourleva, vous le connaissez peut-être déjà, il a écrit plein de choses pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les plus vieux. Il a écrit La balade de Cornubique, qui m'avait beaucoup plu. Et là, il se remet à écrire pour les plus jeunes, on va dire une tranche d'âge, 8 ans pour très bons lecteurs, et jusqu'à 12-13 ans. Donc ça s'appelle Jefferson, et Jefferson, c'est un hérisson. En fait, on est dans un monde où il y a une caste d'animaux, on va dire, qui s'habillent, qui ont une vie normale, qui ont des villes, qui vont chez le coiffeur, qui vivent comme
ça
des humains.
Ça va être chaud pour le hérisson, le coiffeur, non ?
Non, parce qu'il a une petite houppette, Jefferson. Oh. Et en fait, tout commence un matin où Jefferson, quittant son petit terrier... après avoir mis un gratin de pommes de terre au four en attendant son ami Gilbert, décide de partir chez le coiffeur pour aller se faire rafraîchir la houppette. Il aime bien aller chez le coiffeur Jefferson parce que c'est Monsieur Edgar qui le coiffe et c'est un blaireau. Il est très gentil, mais surtout son assistante qui fait les shampoings, c'est Carole, c'est la nièce de Monsieur Edgar. Et Carole, ben quand même, Jefferson, il l'aime bien. Sauf que ce matin-là, en partant, déjà, Jefferson, il manque de se faire écraser par une voiture conduite par deux humains qui roulaient un peu trop vite à son goût. Il s'en sort, pas de souci, mais bon, il a eu un peu peur. Et il arrive devant chez le coiffeur, et la porte est fermée à clé. Mais il voit personne à l'intérieur, à part une chèvre endormie, madame je ne sais plus comment, qui s'est endormie sous son casque de mise en pli. Et il voit personne d'autre, ça l'inquiète un peu, donc il décide de faire le tour et il voit une fenêtre ouverte, donc il s'introduit chez le coiffeur. Et là, il tombe sur Monsieur Edgar, allongé par terre, mort avec une paire de ciseaux enfoncés dans la poitrine.
Ah, c'est sympa tes livres, Charline.
Et il prend peur. Il décide de venir, enfin, il vient à la rescousse, il veut venir à la rescousse de Monsieur Edgar, qui pense pas encore tout à fait mort. Il lui retire les ciseaux de la poitrine, et là, c'est à ce moment-là que la chèvre décide de se réveiller et voit Jefferson avec une paire de ciseaux penchés au-dessus du corps de Monsieur Edgar, qui est finalement bien mort. La chèvre crie, hurle, sort en courant de chez le coiffeur avec ses bigoudis sur la tête, trouve deux gendarmes dehors et annonce « c'est lui l'assassin, c'est Jefferson, il a tué Monsieur Edgar, etc. » Et Jefferson prend peur et fuit.
En fait, c'est pas de la radio qu'on devrait faire. On devrait être filmé parce qu'il faudrait que les gens te voient. C'est encore mieux.
Et voilà, donc on part là-dessus. Jefferson, accusé à tort d'un crime qu'il n'a pas commis, mais comme il prend peur et fuit, pour tout le monde, ça ressemble à un aveu de son crime. Et il veut se réfugier chez lui, mais il y a déjà la police. Donc il se réfugie dans une petite cabane. Et heureusement, il retrouve son ami Gilbert, qui est un petit cochon, qui lui croise son histoire et qui va l'aider à enquêter. Donc tous les deux décident d'enquêter, de retrouver le vrai coupable, de l'emmener à la police pour, euh, pour se faire innocenter. Et donc les voilà partis, ils profitent d'une excursion, ils se déguisent, enfin ils se coupent la houppette, tout ça pour pas qu'on le reconnaisse. Ils partent en voyage organisé avec d'autres animaux dans une ville du Maine qui s'appelle Vilbourg, que je pense que l'auteur a voulu décrire un peu Strasbourg, d'ailleurs c'est marrant, on retrouve un peu les canaux, enfin des trucs, la cathédrale et tout. Et voilà, ils vont se retrouver au pays des humains, et ils vont se retrouver dans un truc un peu plus grand qu'eux, mais ils vont... Je vais pas vous spoiler, mais quand même un petit peu.
Non, chérie, non. Alors, c'est un policier, donc spoil pas.
Non, je spoil pas, mais c'est juste qu'on va parler de choses un petit peu plus profondes et que je pense que c'est bien de parler aux enfants. On va se retrouver au cœur d'une association, enfin d'une organisation en fait, d'humains et d'animaux qui essaye de lutter contre les abattoirs. Parce qu'en fait, l'ami de Jefferson, Gilbert, va se retrouver coincé une nuit dans un abattoir et va voir comment ça se passe. Il va voir le malheur de ces animaux qui sont maltraités avant de crever, en gros. Enfin voilà, c'est un bon roman, plein de suspense, plein d'entraide, d'amitié, d'amour aussi un petit peu. Et ce petit Jefferson, ce petit hérisson, est un personnage fort attachant. Donc je vous rappelle...
Ça se termine bien, moi.
Ça se termine très bien. Ça s'appelle donc Jefferson. C'est par Jean-Claude Mourleva, qui est un auteur qu'on adule un peu en jeunesse. C'est chez Gallimard Jeunesse. Et je vais finir là-dessus, parce que déjà, je bafouille, je n'arrive plus à parler. J'ai faim et il faut que je boive un coup. Et voilà, on vous dit à bientôt et puis une bonne journée.
Retrouvez ces conseils de lecture et bien d'autres à la librairie des signes à Compiègne.